Merci Claire, merci à vous pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? L'écran est correctement partagé, c'est bon pour vous?
Oui, on
Oui?
voit très bien, pas de souci.
D'accord, parfait. Donc merci pour Claire et Delphine et toute l'équipe d'organisation pour cette invitation à cette journée Forma Science. Une journée que nous vous proposons donc de débuter en partageant ensemble un bref état des lieux de notre monde. On pourrait en parler pendant des heures. Un bref état des lieux, un pied dans le passé, un pied dans le présent, et puis on va essayer de tourner, bien sûr, notre regard vers les décennies à venir. Un état des lieux que je vais articuler autour de trois éléments principaux, de ce que l'on appelle donc désormais l'anthropocène, à savoir d'une part l'énergie indispensable au fonctionnement de nos sociétés, d'autre part la dérive climatique enclenchée depuis environ 150 ans maintenant, et enfin l'évolution alarmante de la diversité du monde vivant qui nous entoure. Mais commençons donc par le commencement, et le commencement de notre affaire ici, c'est d'abord et avant tout un commencement géologique. Le quaternaire, vous le savez, c'est la période géologique actuelle. Une période qui, à ce jour, comprend officiellement deux étages successifs, le Pléistocène, qui représente plus de 99% du quaternaire, et l'Holocène, qui couvre seulement les 12 derniers millénaires. Deux étages, et cette année donc, sans doute un troisième, l'Anthropocène, dont l'étude est en cours depuis une dizaine d'années maintenant, et qui devrait normalement rejoindre le calendrier géologique officiel en 2021. À moins que la COVID ait raison du planning initialement fixé par la Commission internationale de stratigraphie, qui est l'organisme international chargé de l'établissement du calendrier géologique. Le mot anthropocène, les classiques d'entre vous, férus de grec, l'auront compris, le mot anthropocène est formé de deux racines grecques, anthropos, qui signifie évidemment humain, et kainos, qui donne scène en français et qui signifie nouveau, scène étant le suffixe de tous les étages géologiques des 66 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre, c'est-à-dire depuis la disparition des dinosaures lors de la dernière grande crise d'extinction. Le quaternaire correspond aux 2,58 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre et constitue de fait le cadre chronologique de l'évolution de la lignée humaine, c'est-à-dire du genre Homo, notre genre biologique. Le quaternaire est un moment en fait assez particulier de l'histoire de la Terre, particulièrement d'un point de vue climatique. En effet, depuis 3 millions d'années, environ un peu plus, la Terre oscille de façon cyclique entre deux états climatiques distincts, des périodes glaciaires froides et sèches, et des périodes interglaciaires plus chaudes et plus humides. Au début du quaternaire, les phases glaciaires et interglaciaires alternent avec une cyclicité de 40 000 ans qui est contrôlée par les variations d'obliquité, c'est-à-dire d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique. Et puis, il y a un peu plus de 1 million d'années maintenant, l'amplitude de ces oscillations glaciaires-interglaciaires va augmenter et la cyclicité climatique s'allonge à 100 000 ans, passant de fait sous le contrôle principal des variations d'excentricité de l'ellipse de rotation de la Terre autour du Soleil. En période glaciaire, la température annuelle moyenne sur Terre est de l'ordre de 10 à 11 degrés, alors qu'elle est de 14 à 15 degrés en période interglaciaire, actuellement 14,6 degrés. Mais attention, 4 à 5 degrés de différence à l'échelle globale, ça ne veut pas dire 4 à 5 degrés de différence partout sur Terre. En fait, cette différence augmente avec la latitude. Et ainsi, à Lyon, par exemple, la température annuelle moyenne était de 11,2 degrés en 1800, au tout début de la révolution industrielle, on y reviendra, alors qu'elle était proche de 0 degré lors de la dernière phase glaciaire il y a 25 000 ans. Soit donc un différentiel d'environ 10 degrés entre une phase glaciaire et une phase interglaciaire à la latitude de Lyon. Autrement dit, la pente du gradient latitudinal de température, c'est-à-dire le différentiel qui existe entre les températures moyennes au pôle et les températures moyennes à l'équateur, cette pente du gradient latitudinal de température est nettement plus forte en période glaciaire qu'en période interglaciaire. Alors bien sûr, durant le quaternaire, l'histoire de la lignée humaine est une histoire d'évolution biologique, technologique et socioculturelle. Une histoire qui est marquée notamment par toute une série d'innovations majeures dont les archéologues et les préhistoriens retracent patiemment la chronologie. Par exemple, les premiers outils en pierre taillée, il y a plus de 3 millions d'années, la domestication du feu, il y a 700 000 ans, puis la cuisson des aliments, il y a 400 000 ans, les premières sépultures, il y a 120 000 ans, les premières œuvres d'art, il y a 50 000 ans, l'invention de l'élevage et de l'agriculture au sortir de la dernière période glaciaire, il y a 12 000 ans, c'est le début de l'Holocène, et puis la céramique, il y a 10 000 ans, ou encore la métallurgie et l'écriture, il y a 6 000 ans, par exemple. Parmi toutes ces innovations qui jalonnent l'histoire de l'humanité, deux vont tout particulièrement nous intéresser ici dans le cadre de l'Anthropocène. Ces deux innovations sont deux ruptures, deux révolutions énergétiques majeures. La première a lieu il y a environ 12 000 ans, c'est-à-dire 10 000 ans avant notre ère, au moment de la transition entre la dernière période glaciaire et la période interglaciaire actuelle. C'est ce que l'on appelle la révolution néolithique, correspond à un changement radical des modalités d'approvisionnement en nourriture de l'humanité. Une humanité qui passe d'un mode de vie nomade, chasseur-cueilleur, à un mode de vie sédentaire, agro-pastoral. La révolution néolithique, c'est une rupture majeure dans les modalités d'approvisionnement et de gestion de notre source d'énergie directe, c'est-à-dire notre alimentation. La seconde révolution est beaucoup plus récente, il y a environ 250 ans, c'est-à-dire fin 18e, début 19e siècle. C'est la révolution industrielle qui concerne, dans un premier temps, essentiellement le monde occidental, Europe et Amérique du Nord. À ce moment-là, l'humanité occidentale modifie profondément, non pas la façon dont elle-même s'alimente, mais la façon dont elle alimente les machines qui travaillent pour elle. Car jusqu'au XVIIIe siècle, les humains vivent dans un monde 100% énergie renouvelable, à base de forces humaines et animales, de vent, d'eau et de charbon de bois produit par pyrolyse du bois de nos forêts. À partir du début du XIXe siècle, l'Occident va, dans le contexte de la révolution industrielle et du fait de l'épuisement de ses ressources forestières, comme on le voit ici pour les forêts de France, mais c'est vrai à l'échelle de toute l'Europe, se tourner en quelques décennies vers différentes sources d'énergie riches en carbone, des sources d'énergie naturellement stockées sous terre depuis plusieurs dizaines à centaines de millions d'années. C'est d'abord à partir des années 1800 le charbon fossile, c'est-à-dire la houille, qui est une roche, vous le savez, riche en carbone, formée à partir de la dégradation partielle par pyrolyse naturelle de la matière organique des végétaux lors de l'enfouissement sédimentaire, puis le pétrole à partir des années 1860, formé à partir de la dégradation partielle, là aussi de matière organique, mais venant du plancton marin qui se dépose et qui est enseveli au fond des océans après sa mort, et enfin le gaz naturel à partir des années 1920, également formé à partir de la dégradation de la matière organique du plancton marin. À ces trois énergies fossiles s'ajoute à partir des années 1960 l'énergie nucléaire, une énergie évidemment non carbonée, extrêmement concentrée, provenant de la fission contrôlée de l'uranium-235. Et enfin, également à partir des années 1960 essentiellement, différentes nouvelles sources renouvelables d'énergie, notamment électriques, comme l'hydroélectricité, l'éolien, le photovoltaïque, et aussi divers types de biocarburants, liquides ou gazeux, ou encore la géothermie. Alors, pourquoi un tel changement, ou plus exactement un tel empilement successif de nouvelles sources d'énergie, à partir du début du XIXe siècle, à la suite de l'invention par James Watt de la machine à vapeur dans les années 1770-1780, machine à vapeur à l'origine de la révolution industrielle occidentale. Pourquoi un tel changement? Une raison socio-économique très profonde explique cette évolution. Cette raison est liée à la puissance mécanique qui est fournie par le travail musculaire d'un être humain. Une puissance qui est d'environ 10 watts pour les bras et 100 watts pour les jambes, et qui représente donc une énergie mécanique comprise entre 10 et 100 kWh par an et par individu. Une énergie qui, lorsqu'elle est payée au SMIC, coûte donc aujourd'hui quelque part entre 200 et 2000 euros le kWh. En comparaison, la combustion d'un litre d'essence fournit environ 3 kWh d'énergie mécanique, ce qui met le coût actuel du kWh d'énergie fossile aux environs de 50 centimes d'euros, soit quelques centaines à quelques milliers de fois moins cher que le kWh d'énergie mécanique humaine. De fait, à toute machine, quelle qu'elle soit, est associée une puissance qui peut être convertie en puissance humaine équivalente. Par exemple, un aspirateur, c'est environ 100 paires de bras. Une voiture ou un tracteur, 750 paires de jambes. Un tractopelle, 10 000 paires de bras. Un poids lourd, 4 000 paires de jambes. Et un seul laminoir industriel, comme celui de Dunkerque ou de Fos-sur-Mer en France, c'est la puissance de travail, un seul laminoir industriel, de 10 millions de personnes qui frappent sur des tôles pour les aplatir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Partant de là, la consommation énergétique d'un être humain, qui ne mange évidemment pas de charbon et qui ne boit surtout pas de pétrole, la consommation énergétique d'un être humain correspond évidemment à la consommation des machines qu'il ou elle utilise directement ou indirectement pour se nourrir, mais aussi pour se loger, pour s'habiller, pour travailler, pour se déplacer, pour voyager, pour s'amuser, etc. Bref, pour vivre. À l'échelle mondiale, cette consommation énergétique individuelle est aujourd'hui de 22 000 kWh par an en moyenne et par personne, soit l'équivalent d'environ 200 esclaves énergétiques par personne. En France, c'est 3 fois plus, avec une consommation moyenne de 60 000 kWh par an et par personne, c'est-à-dire environ 600 esclaves énergétiques par personne qui travaillent en permanence pour chacun et chacune d'entre nous. Sans parler des catégories socio-professionnelles les plus favorisées, la plupart d'entre nous en fait ici ce matin, qui elles vivent assistées de 1 000 à 2 000 esclaves énergétiques par personne. Ainsi, l'énergie, c'est, durant les 2 derniers siècles, ce qui a progressivement transformé chacun et chacune d'entre nous en Superman ou en Superwoman, comme vous préférez, nous permettant de dédier de plus en plus de temps à faire tout autre chose que d'assurer notre propre survie. Du temps pour étudier, du temps pour se reposer, pour s'amuser, pour voyager, pour se soigner, pour prendre sa retraite, etc. etc. Bref, l'énergie, c'est dans notre civilisation ce que nous appelons le progrès. Parce que, de ce point de vue, vivre mieux demain qu'hier, ce qui est l'aspiration légitime de tout un chacun, c'est nécessairement consommer plus d'énergie demain qu'hier. Du moins, telle est la définition du vivre mieux que nous avons collectivement intégré dans nos vies, sans bien même nous en rendre compte. Et de fait, l'augmentation de la consommation d'énergie, année après année, depuis ces 2 derniers siècles, a permis un certain nombre de progrès factuels. Par exemple, la révolution industrielle, couplée au déploiement des combustibles fossiles, est une des raisons fondamentales et principales de la disparition de l'esclavage en Occident durant le XIXe siècle. Même sans les payer, il fallait entretenir les esclaves, c'est-à-dire à minima les nourrir, les habiller, les loger, ce qui va très rapidement représenter un coût du kilowattheure de travail d'un esclave 10 à 100 fois plus élevé que le coût du kilowattheure de travail d'une machine remplaçant cet esclave. Bref, l'esclavage va devenir économiquement non rentable et va donc rapidement être abandonné au profit de machines faisant le même travail qu'un esclave pour beaucoup moins cher, qui plus est sans jamais se révolter. Par exemple également, le doublement de l'espérance de vie en Europe occidentale, une espérance de vie qui est passée en France de 40 ans en 1820 à 82 ans, 200 ans plus tard. Cela pourra vous surprendre, mais cette augmentation est la conséquence directe de l'augmentation de notre consommation énergétique et donc de l'amélioration de l'hygiène et du suivi médical des individus tout au long de leur vie. Pensez par exemple au nettoyage des vêtements, au nettoyage des habitations, à l'utilisation de détergents, de pesticides, de savons, d'eau chaude et bien sûr à la fabrication de médicaments. Tout cela représente d'énormes dépenses énergétiques qui n'ont cessé de croître au cours des deux derniers siècles. De fait, la consommation d'énergie, qui est la nôtre aujourd'hui, sans cette consommation d'énergie, nous n'aurions pas le système de santé que nous connaissons aujourd'hui. Et il en va exactement de même, et pour les mêmes raisons, pour notre système éducatif, notre système de sécurité sociale, notre système d'assurance chômage, de retraite, etc., etc. Dans son organisation et dans son fonctionnement, notre société dépend intimement, profondément et directement de notre capacité à utiliser de l'énergie pour faire marcher les milliards de machines qui nous sont devenues petit à petit indispensables. Alors évidemment, on pourra dire qu'il est normal que la consommation mondiale d'énergie augmente au cours du temps, vu l'augmentation de la population mondiale. Et c'est vrai, entre 1800 et 2010, la population humaine mondiale est passée de 1 milliard à 7 milliards d'habitants et donc a été multipliée par 7. Mais ce n'est pas suffisant, car en même temps, la consommation mondiale d'énergie a été multipliée par 54. Et la production de richesses économiques, le PIB mondial, par 286. Ce qui est en réalité une très mauvaise performance, étant donné qu'en même temps, la consommation énergétique moyenne des machines qui produisent l'essentiel de ce capital a été divisée par 10. C'est donc bien la consommation d'énergie, et différentes analyses statistiques le montrent sans absolument aucune ambiguïté, c'est donc bien la consommation d'énergie qui contrôle tous les autres paramètres de notre monde. Contrairement à l'intuition, ce n'est pas parce que nous sommes plus nombreux que nous consommons plus d'énergie, mais bien parce que nous consommons plus d'énergie que nous sommes finalement plus nombreux. Et ce contrôle ne se limite pas à la démographie ou au capital. C'est en fait la quasi-totalité des descripteurs biotiques et abiotiques du système Terre et des descripteurs socio-économiques de l'humanité au sein de ce système Terre qui présentent depuis deux siècles environ des évolutions exponentielles causalement dépendante de notre consommation énergétique. Le CO2 provenant de la combustion d'hydrocarbures fossiles, évidemment, mais aussi le protoxyde d'azote ou le méthane provenant des activités agricoles, la température de surface et l'acidité de l'océan, l'accumulation d'azote dans les zones côtières, la déforestation tropicale, le recul de la biodiversité, mais encore la production et la consommation d'engrais, la construction de grands barrages, la consommation d'eau, la production de papier, le transport, les télécommunications ou encore le tourisme international, pour ne prendre que quelques exemples parmi des centaines et des centaines d'autres qui montrent tous la même histoire en deux phases successives. Avant 1950, au rythme moyen d'une augmentation de la consommation énergétique de 1% ou à peine un peu plus par an, c'est-à-dire un temps de doublement de cette consommation de 70 ans, et après 1950, où l'augmentation moyenne de la consommation énergétique passe à 2% par an, soit un temps de doublement divisé par 2 de 35 ans. Un changement abrupt au sortir de la Seconde Guerre mondiale, déclenché par la mise en œuvre en Occident du plan Marshall en 1948, et qui marque ce que l'on appelle désormais la grande accélération, un moment singulier d'emballement systémique de l'humanité, qui a de bonnes chances d'ailleurs d'être désigné d'ici quelques mois comme marqueur d'entrée dans l'Anthropocène. Car même si, bien sûr, la géographie de cette croissance exponentielle a sensiblement évolué depuis les années 1950, nous sommes de fait toujours aujourd'hui dans cette dynamique mondiale à environ plus de 2% par an, enclenchée il y a de cela 70 ans. Et de fait, au rythme des trois dernières décennies, nous consommerons autant d'énergie, de matières premières et d'aliments au cours des trois prochaines décennies que nous en avons consommé cumulativement au cours des 10 000 dernières années. Alors, pourquoi donc en est-il ainsi? Parce que de fait, nous vivons depuis deux siècles dans une civilisation thermo-industrielle fondée sur notre capacité à exploiter diverses ressources naturelles, renouvelables ou non renouvelables, via la production et la consommation d'énergie. Exploitation et transformation de ressources naturelles qui nous permettent de produire des richesses économiques diverses, laquelle production génère de la croissance économique, qui nous permet finalement d'exploiter et de transformer encore plus de ressources via la consommation d'encore plus d'énergie. Et ainsi de suite, dans une course de la Reine Rouge, comme dans Alice au Pays des Merveilles, une course à laquelle tous les pays participent, chacun essayant de courir au moins aussi vite, voire si possible un petit peu plus vite que les autres, amenant ainsi tous les participants à courir, année après année, de plus en plus vite. Alors évidemment, chaque étape de cette spirale a ses conséquences, au premier rang desquelles, bien sûr, la diminution progressive des ressources naturelles, une fatalité comprise dès le début de cette histoire par des penseurs comme Malthus. Évidemment aussi, la production de déchets et donc de pollution. Car si dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ce qui est, vous le savez, le fondement du premier principe de la thermodynamique, ces transformations se traduisent obligatoirement par une augmentation de l'entropie du système, ce qui renvoie là aussi, vous l'aurez reconnu, au second principe de la thermodynamique. Autrement dit, toute transformation génère nécessairement son lot de dégradation, voire de destruction, une autre façon de dire que l'énergie propre, par définition, ça n'existe pas. Et finalement, une répartition de plus en plus inégale des richesses ainsi produites, cause de l'augmentation des inégalités socio-économiques au sein et entre les États-nations. L'énergie joue donc, dans notre civilisation thermo-industrielle, le rôle exact d'une drogue sur un organisme. Nous sommes individuellement et collectivement accros à l'énergie. Quand on en manque, on en souffre. Et de fait, nous sommes, sans même nous en rendre compte, en recherche permanente de notre dose, une dose toujours plus forte et qui nous rapproche de plus en plus de l'overdose. Et de fait, depuis deux siècles maintenant, nous consommons année après année de plus en plus d'énergie, individuellement comme collectivement. Aujourd'hui, les principales sources d'énergie utilisées sont des combustibles fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz naturel, qui représentent à eux trois réunis 80%, 83% du mix énergétique mondial et encore 66% en France, en dépit de la forte part du nucléaire dans notre production d'électricité. Et comme pour toute drogue, la consommation d'énergie a des conséquences, dont deux majeures qui ont déjà commencé à nous affecter et que je vais maintenant vous présenter, la dérive climatique d'une part et l'effondrement de la biodiversité d'autre part. La conséquence climatique de cette hypercroissance énergétique est liée en premier lieu aux émissions de dioxyde de carbone, le CO2, le déchet produit par la combustion d'hydrocarbures fossiles, ainsi que par la production de méthane et de protoxyde d'azote, rejetés principalement par nos activités agricoles. Ces trois gaz sont, comme vous le savez, de puissants gaz à effet de serre, c'est-à-dire des gaz dont la présence dans l'atmosphère empêche une partie de la chaleur accumulée sur Terre de repartir dans l'espace sous la forme d'infrarouge thermique. Très clairement et sans aucune hésitation, nous savons aujourd'hui, au-delà de tout doute raisonnable, que l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2, en méthane et en protoxyde d'azote au cours des deux derniers siècles n'est pas une augmentation naturelle, mais le résultat des activités humaines, au premier rang desquelles on trouve, à l'échelle mondiale, la production d'électricité par des centrales à charbon, à gaz et minoritairement à pétrole, des centrales qui produisent aujourd'hui deux tiers de l'électricité mondiale, une proportion qui est en constante augmentation depuis 40 ans, malgré le développement des nouvelles énergies renouvelables. Puis viennent l'agriculture mécanisée et les élevages intensifs, qui sont responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Le transport, pour 14% des émissions. La production de ciment et les constructions, pour 13%. Les activités industrielles, notamment la métallurgie et la chimie, pour 10%. À égalité avec les effets induits par la déforestation. Et finalement, le reste de nos activités, aujourd'hui dominées par le numérique. Concernant le seul dioxyde de carbone, dont la concentration atmosphérique était très stable depuis plus de 10 000 ans, autour de 281 microlitres de CO2 par litre d'air. Cette concentration décolle dès le début de la révolution industrielle pour atteindre 417 microlitres par litre au 1er janvier dernier, soit une augmentation de près de 50% en deux siècles, à un rythme toujours de plus en plus rapide, parce qu'en dépit de toutes les déclarations et de tous les accords, nous brûlons toujours de plus en plus de charbon, de pétrole et de gaz naturel. À ce jour, ce sont quelque 2250 milliards de tonnes de CO2 qui ont ainsi été libérées dans l'atmosphère, résultat de la combustion d'un tiers à la moitié du stock total d'hydrocarbures fossiles présents sur Terre. Pour la seule année 2019, ce sera 4 ou 5% de moins en 2020, mais pour la seule année 2019, cela représente près de 37 milliards de tonnes de CO2, soit un rythme moyen de 1150 tonnes, c'est-à-dire plus de 1 million de kilos de CO2 émis chaque seconde. Un rythme qui ne cesse toujours pas d'augmenter d'environ 1,5 à 2 % par an. Et donc, le climat terrestre, lentement mais sûrement, se réchauffe. Ainsi, à l'échelle mondiale, la température moyenne a augmenté de près de 1 degré au cours des 140 dernières années, soit 1,6 degré de plus en 120 ans à l'échelle de la France et 1,4 degré de plus en 100 ans à Lyon. Un réchauffement qui a donc déjà commencé et qui est tout particulièrement sensible en haute latitude, qui se réchauffe beaucoup plus vite que les basses latitudes, comme le montre par exemple l'évolution de la surface couverte par la banquise arctique à la fin de l'été, une surface de glace de mer qui a été divisée par deux au cours des 40 dernières années. Et un réchauffement qui continuera, quoi que nous fassions de toute façon dans les 30 ans qui viennent, du seul fait des émissions de CO2 déjà réalisées. Ainsi, il est d'ores et déjà acquis, par exemple, que le pôle Nord sera libre de glace en été avant 2050, la plupart d'entre nous ici le verront, et que, plus proche de nous à Chamonix, la mer de glace et le glacier de l'Argentière auront totalement disparu d'ici la fin du siècle, si nous ne respectons pas, en tout cas, dès maintenant, l'ensemble des engagements signés en 2015 à Paris lors de la COP21. Engagement que, soit dit en passant, absolument aucun pays au monde ne respecte actuellement, aucun et surtout pas la France. Alors, très clairement, ce réchauffement aura des conséquences majeures sur l'humanité. Ainsi, si nous prolongeons au XXIe siècle le réchauffement climatique des 50 dernières années, ce qui est encore aujourd'hui le scénario le plus proche de la réalité de nos émissions de gaz à effet de serre, alors entre la moitié et trois quarts de l'humanité actuelle, c'est-à-dire 4 à 6 milliards d'individus sur la base de la démographie actuelle, vivront à la fin du siècle, à la fin du XXIe siècle, dans des régions du monde qui connaîtront au moins 3 semaines par an de conditions climatiques mortelles pour un être humain. Pas désagréables, mortelles pour un être humain. Des populations qui seront ainsi forcées à migrer vers des régions plus favorables, une situation dont on peut sans peine imaginer les chaos socio-économiques et géopolitiques qu'elles pourront déclencher. Et si c'est mauvais pour nous, ce sera bien sûr également mauvais pour tous les autres êtres vivants. Sous ce même scénario climatique, c'est en effet la quasi-totalité de la zone intertropicale, la partie du globe aujourd'hui la plus riche en biodiversité, qui va de plus en plus rapidement devenir impropre à la vie de la plupart des espèces qui y résident aujourd'hui. Et cela, quels que soient nos efforts pour préserver cette biodiversité, Car évidemment, on ne protège pas les êtres vivants contre la hausse du thermomètre. On peut les protéger de plein de choses que nous faisons, mais pas de la hausse du thermomètre. Ce qui nous amène de fait directement à la deuxième conséquence principale de l'hypercroissance énergétique dont je vous parlais, à savoir l'effondrement en cours de la biodiversité. Prenons pour commencer un exemple. L'exemple du groupe animal que nous connaissons le mieux, simplement parce que c'est le nôtre, le groupe des mammifères. Au cours des deux derniers siècles, ce sont 79 des 5500 espèces connues de mammifères actuels qui ont définitivement disparu de la surface de la Terre. Et cela sur tous les continents, quelle que soit leur taille, leur mode de vie ou encore leur régime alimentaire. Au-delà de ces disparitions définitives, la moitié de ces mêmes 5500 espèces actuelles de mammifères ont vu leur effectif, la taille de leur population, diminuer de plus de 60%, et ce, là aussi, sur tous les continents. En France, la taille de population a diminué, les tailles de population de mammifères sauvages ont diminué en moyenne de 85% depuis 1900. La situation est telle qu'aujourd'hui, sur Terre, 25 des 5500 espèces actuelles de mammifères représentent à elles seules 96% de toute la biomasse des mammifères. 25%, c'est-à-dire l'espèce humaine plus 24 espèces domestiquées. Autrement dit, les mammifères sauvages, des plus petites musaraignes jusqu'aux plus grandes baleines, soit 99,5% de toutes les espèces actuelles de mammifères, ne représentent plus aujourd'hui que 4% de la masse totale des mammifères vivant sur Terre. Et ce n'est malheureusement pas tout. Au cours des 50 dernières années, le nombre d'individus sur Terre appartenant à des animaux vertébrés a été divisé par plus de 3, avec par exemple 30% d'oiseaux en moins et 88% de poissons d'eau douce en moins. Par ailleurs, en Europe, les tailles de population, les effectifs d'insectes volants ont été divisés par 5, alors qu'à l'échelle mondiale, un article publié l'an dernier montre une chute de plus de 40% au cours des seules 10 dernières années. Dernier chiffre parmi de nombreux autres tout aussi alarmants, chaque année, la flotte de pêche mondiale supprime des océans environ 1000 milliards d'animaux marins. Au total, les données collectées par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IUCN, indiquent que ce sont environ 20 000 espèces connues qui ont définitivement disparu de la surface de la planète au cours des deux derniers siècles. Un nombre qui, au rythme des dernières décennies, devrait atteindre environ 500 000, soit un quart de toutes les espèces connues d'ici la fin du siècle. Alors, avant d'aller plus loin, il est intéressant, je trouve, de s'arrêter sur ces deux derniers chiffres afin de comprendre comment ils ont été obtenus, parce que ce n'est pas trivial du tout. En 2015, date de la dernière synthèse publiée par l'IUCN, un peu plus de 1 700 000 espèces d'animaux, de végétaux et de champignons étaient scientifiquement connues sur Terre, les bactéries et les archées n'étant pas intégrées dans ce décompte. Selon différentes extrapolations qui sont toutes globalement concordantes, ces 1,7 million d'espèces connues représentent environ 20% de la diversité actuelle totale. C'est-à-dire qu'on estime qu'il existe aujourd'hui sur Terre 8 à 10 millions d'espèces différentes, dont 80% nous sont encore totalement inconnues. Sur ces 1,7 million d'espèces connues, l'IUCN, en 2015, en avait évalué un petit peu plus de 76 000, soit 4,4% de toutes les espèces connues, et constaté que parmi elles, près de 30% étaient dans un état de conservation critique, c'est-à-dire menacés d'extinction à court terme, et 1,2% étaient d'ores et déjà éteintes. Ce sont ces deux derniers pourcentages, 29,4 et 1,2%, qui, par extrapolation aux 1,7 million d'espèces connues, permettent d'obtenir ces estimations D'une part, 20 000 espèces connues éteintes à ce jour, et d'autre part, environ 500 000 espèces connues menacées d'extinction à très court terme. Au bilan, 6 raisons principales expliquent les extinctions d'ores et déjà constatées. Des extinctions qui sont toutes directement ou indirectement liées à la présence et aux activités humaines. En premier lieu, et pour près de la moitié des extinctions constatées à ce jour, la destruction des habitats, notamment du fait de la déforestation, de l'assèchement des zones humides et de la destruction des fonds marins. Mais aussi la surexploitation des espèces, pour plus d'un tiers des extinctions, le changement climatique, pour l'instant à l'origine de seulement 7% des extinctions, mais qui, comme nous venons de le voir, va rapidement peser de plus en plus lourd dans la balance, et finalement l'invasion d'écosystèmes par des espèces qui en étaient initialement absentes, différents types de pollution, les plus dangereuses étant celles qu'on ne voit pas et qui se concentrent le long des chaînes alimentaires, et différentes maladies pour les quelques pourcents restants. Au total, nous sommes entrés depuis 2 siècles dans une phase d'extermination, une phase d'annihilation biologique, caractéristique des débuts d'une crise d'extinction globale. Car cela vous surprendra peut-être, mais en dépit de ce que je viens de vous présenter, le moment où la situation devient totalement incontrôlable et où la crise d'extinction globale, à proprement parler, s'enclenche, ce moment-là n'a visiblement pas encore eu lieu, ce qui nous laisse un petit espoir d'arriver à éviter le pire. Pour comprendre cela, considérons ce simple schéma que vous connaissez toutes et tous évidemment. L'herbe est mangée par la sauterelle, qui est mangée par l'araignée, qui est mangée par le hibou. C'est une chaîne alimentaire. En réalité, vous le savez, un écosystème n'est pas une chaîne alimentaire. C'est un réseau alimentaire combinant différentes chaînes. Un réseau où chaque proie a généralement plusieurs prédateurs possibles et chaque prédateur plusieurs proies à sa disposition. Bien sûr, dans la vraie vie, les réseaux alimentaires intègrent plusieurs centaines à milliers d'espèces différentes via plusieurs milliers à dizaines de milliers de liens alimentaires, de liens trophiques, comme ici ce réseau d'un récif corallien actuel au large des îles Vierges dans les Caraïbes. Alors maintenant, fermez les yeux, désignez au hasard une des espèces de ce réseau et supprimez-la. Que va-t-il se passer? Très certainement, rien du tout. Les espèces restantes vont compenser cette disparition, au besoin en consommant un peu plus de quelques autres espèces présentes dans l'écosystème. Alors on continue. On supprime une autre espèce, rien de plus. Puis encore une autre, toujours rien. Et une quatrième, et une cinquième. Jusqu'à un certain point, l'écosystème très robuste va parfaitement résister à ces premières disparitions. Mais il va arriver un moment, un seuil de stabilité du réseau, où l'élimination d'une énième espèce ne pourra plus être compensée par certaines espèces restantes, qui ne trouveront plus dans leur écosystème les moyens de leur propre subsistance. Et là, le problème va complètement changer de nature. C'est la disparition d'une espèce qui va devenir la cause directe, proximale, de la disparition d'une autre espèce, puis d'une autre, puis encore d'une autre, et ainsi de suite, formant ainsi une cascade, une avalanche auto-entretenue d'extinction qui n'aura absolument plus rien à voir avec le mécanisme initial d'élimination d'espèces. Une avalanche qu'il sera impossible d'arrêter, à l'image d'une avalanche de neige sur le flanc d'une montagne. Alors aujourd'hui, nous sommes quelque part le long de cette pente qui nous approche du seuil de stabilité des écosystèmes. Et la question est donc, quand est-ce que nous atteindrons ce seuil? Malheureusement, nous savons depuis les années 1990 qu'il est impossible de répondre à cette question, non pas du tout par manque d'informations ou manque de connaissances, mais parce que cette dynamique d'avalanche résulte de phénomènes non linéaires, de déséquilibre dynamique, des phénomènes dits de criticalité auto-organisée et qui impliquent qu'il n'existe pas de valeur universelle de seuil. Chaque écosystème aura son propre seuil qui dépendra notamment de l'identité et de la séquence initiale de disparition des espèces qui le composent. Autrement dit, La seule façon de savoir où se situe le seuil de stabilité d'un écosystème, c'est de le franchir et d'observer le départ d'avalanche qui en résulte. Mais il est alors, évidemment, déjà trop tard. Car deux points, en revanche, sont absolument certains. D'une part, il est impossible d'arrêter une avalanche, et il est donc impératif d'empêcher leur déclenchement. D'autre part, l'étude des grandes crises d'extinction qui ont eu lieu au cours des temps géologiques, des grandes crises où on observe ce mécanisme d'avalanche fonctionner, l'étude de ces grandes crises d'extinction nous montre qu'alors qu'il faut, pour quelques siècles, quelques milliers d'années, pour éliminer 60, 80, 95% des espèces qui existent à un moment donné, il faut en ordre de grandeur 1000 fois plus de temps, c'est-à-dire quelques centaines de milliers à quelques millions d'années, pour que de nouvelles espèces évoluent et reconstituent un nouveau stock de biodiversité. Une durée qui est évidemment incompatible avec tout projet d'humanité. Alors au-delà des dimensions philosophiques, morales, esthétiques de la situation présente, pourquoi est-ce qu'il faut s'inquiéter de cet effondrement en cours de la biodiversité? Eh bien parce que la biodiversité, c'est utile. Et c'est utile pas seulement pour nous. Indépendamment de l'espèce humaine, la biodiversité, c'est utile d'abord, avant tout et surtout, parce que c'est absolument indispensable au bon fonctionnement de la biosphère. La biodiversité régule les dynamiques démographiques des populations au sein des écosystèmes. La biodiversité stabilise la structure et le fonctionnement des réseaux alimentaires, comme nous venons de le voir. La biodiversité assure différents services écosystémiques, comme la pollinisation, la dépollution de l'air et de l'eau, la stabilisation des climats, par exemple en participant à la régulation du cycle hydrologique des zones forestières. Bref, sans biodiversité, les écosystèmes cessent de fonctionner et notre vie devient, à très court terme, simplement impossible sur Terre. Car de fait, la biodiversité nous est directement utile d'un point de vue socio-économique et culturel, mais aussi d'un point de vue pharmaceutique et d'un point de vue alimentaire via la biodiversité domestique, dont une partie importante, mais économiquement non rentable, est aujourd'hui menacée d'extinction, elle aussi, à très court terme, ce qui représente un problème majeur pour le maintien génétique des races et des variétés domestiques économiquement rentables, surtout lorsque les formes sauvages qui nous ont permis d'obtenir ces variétés domestiques, surtout lorsque les formes sauvages ont aujourd'hui disparu, ce qui est le cas, par exemple, pour les vaches. La forme sauvage des vaches, l'auroch, a disparu au début du XVIIe siècle. En effet, et enfin, bien sûr, d'un point de vue sanitaire, un problème évidemment d'actualité et qui mérite quelques explications. Très, très, très clairement, la pandémie que nous subissons depuis un an est la conséquence directe de l'effondrement en cours de la biodiversité. La diversité du monde vivant est le meilleur rempart qui soit contre les zoonoses, c'est-à-dire la transmission d'un agent infectieux depuis une espèce de la faune sauvage vers les êtres humains, souvent par l'intermédiaire d'un animal domestique. Le mécanisme est le suivant. La chasse d'animaux sauvages, pour leur commerce et leur consommation, couplée à la destruction de leur habitat naturel, aboutit d'une part à la concentration des pathogènes les plus contagieux dans les espèces sauvages survivantes, et d'autre part, à un déplacement de ces espèces sauvages survivantes vers les zones périurbaines où, paradoxalement, elles trouvent refuge. Ce qui, finalement, se traduit par une augmentation des contacts entre animaux sauvages et domestiques, et donc une augmentation du risque de transfert de ces pathogènes vers les êtres humains. Au final, plus la biodiversité diminue, moins il y a de maladies infectieuses dans le monde. Et pourtant, plus la probabilité de déclenchement d'une épidémie zoonotique est grande, par effet de concentration et par effet de proximité. La conséquence de cela, c'est que la probabilité d'émergence d'une épidémie zoonotique dans une région augmente, cette probabilité d'émergence augmente directement avec le nombre d'espèces menacées d'extinction dans cette région. Ainsi, 70% des maladies émergentes et la quasi-totalité des pandémies observées depuis le début du XXe siècle sont des zoonoses apparues dans des zones d'effondrement de la biodiversité, des zones identifiées en rouge sur cette carte. Ici aussi, il n'y a absolument aucun doute sur ce sujet. Vu la dynamique d'extinction en cours, la prochaine pandémie mondiale est déjà en cours de préparation, quelque part dans une des forêts tropicales dévastées d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique. C'est une certitude, même si on est incapable aujourd'hui de dire où est-ce que ça va avoir lieu et quand est-ce que ça va avoir lieu, c'est une certitude et nous devrions d'ores et déjà sérieusement nous y préparer, car objectivement, le SARS-CoV-2 qui nous embête aujourd'hui est un virus plutôt sympa et vraiment, vraiment pas dangereux. Et nous avons désormais en main les principaux éléments nécessaires à la définition de l'Anthropocène. Une époque de l'histoire de la Terre où une seule et unique espèce, notre espèce, est devenue une force géophysique majeure, impactant significativement les flux et les cycles de matière et d'énergie à la surface du système Terre. Alors pour conclure, et ce sera aussi une transition vers la présentation qui va venir d'Olivier Vidal, une façon, il me semble, particulièrement édifiante de représenter cet impact des activités humaines à la surface de la Terre consiste à visualiser l'évolution au cours du XXe siècle de la technomasse, c'est-à-dire de la masse de l'ensemble des artefacts produits par l'humanité. Une technomasse qui se mesure en centaines de milliards de tonnes de poids sec et qui est constituée essentiellement de béton, d'agrégats divers, d'asphalte, de briques, de différents métaux et de bois, de verre et de plastique. Une technomasse planétaire qui s'élève aujourd'hui à environ 1200 milliards de tonnes de poids sec. Une technomasse planétaire dont on peut comparer l'évolution à celle de la biomasse planétaire. Et ça y est, nous sommes au point de croisement où la masse totale des artefacts produits par l'humanité pèse désormais plus lourd que la vie sur Terre. Une technomasse dont la croissance exponentielle, dans un monde physiquement contraint et limité, n'est évidemment ni soutenable ni durable, quelle que soit notre volonté à ce sujet, un point qu'Olivier, je pense, développera dans sa présentation. Et je vais donc m'arrêter là.
Merci beaucoup Gilles pour cette présentation passionnante et vraiment, comme toujours, très claire, très documentée.